Bonjour, nous allons faire une lecture dans Psaume 18, verset 30. Avec toi, donc avec Dieu, avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Amen. Vous savez mes frères et sœurs, notre époque ne diffère pas des époques passées. Le Seigneur n'aime pas moins les gens de notre époque que ceux des temps passés. Dieu est en train de rétablir toute chose dans son Église et il travaille à cela dans le monde entier. Et la merveille, c'est que Dieu continue à parler à ses enfants. Il ne se cache pas, il n'est pas en train de se cacher dans les cieux, il parle aujourd'hui comme il l'a fait dans les temps anciens et c'est à nous d'écouter. Ça nous rend responsables. Nous ne sommes plus des enfants spirituels. Nous ne sommes plus des bébés. Et je dis que notre sort, comme celui du monde, dépend de notre façon d'écouter et de tenir compte de la parole de Dieu révélée à ses enfants. Dieu ne révèle pas des choses nouvelles en ce moment. Il rétablit des choses anciennes. Elles vous paraissent nouvelles, mais elles ne sont pas nouvelles. Elles sont anciennes, elles ont été perdues à cause de l'apostasie, et elles sont rétablies, selon ce que l'apôtre nous dit dans Actes chapitre 3, que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses, et ça, on est dedans. Dans la barque, Pierre s'est écrié « Sur ta parole, je jetterai mes filets », c'est-à-dire « j'agirai ». Eh bien, ça doit être notre attitude. C'est sur la parole de Dieu que nous devons jeter notre filet. Pas sur la parole de Dieu telle qu'elle est comprise de notre dénomination. Sur la parole que Dieu donne aujourd'hui. Seigneur, sur ta parole, j'agirai. Vous savez, la Bible ne se suffit pas à elle-même pour conduire véritablement le peuple dans la volonté de Dieu. Si elle suffisait à elle-même, alors il n'y aurait qu'une religion chrétienne. Il faut des serviteurs de Dieu, des porte-paroles de Dieu, des prophètes qui disent la parole de Dieu pour le temps. Ces paroles ne doivent pas contredire les paroles qui sont écrites, elles doivent simplement mettre en lumière des choses qui ont été mises dans les ténèbres par la religion. Donc sur ta parole, j'agirai. Comprenez bien ce que je dis sur la parole parlée de Dieu aujourd'hui. J'agirai. Vous savez, le fait d'agir, ne serait-ce qu'avec un brin de foi, cela permet à Dieu de faire grandir cette foi. Frères et sœurs, il y a de grands défis devant nous. Il y a d'immenses possibilités à saisir. Déjà, pensez-y. Ici, au sanctuaire, on a fait plus de 70 millions de baptêmes à la place des morts. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous sera compté dans le royaume de Dieu. Quand nous arriverons devant le Seigneur. Parce que simplement nous avons obéi. Et il y a encore d'autres choses très grandes que nous pouvons accomplir. Ce sont des défis. Alors devant tout ce que nous voyons, comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'on va agir? En notre propre nom, avec nos propres forces, avec notre propre intelligence? Non. Je vous assure, il est beaucoup plus avantageux que nous soyons humbles, et que nous disions humblement au Seigneur, « Seigneur, donne-moi cette muraille que je la franchisse. » C'est un mur devant vous, vous ne comprenez pas, c'est un mur devant vous, et si vous franchissez ce mur, c'est des étendues qui s'étalent devant vous, des territoires que Dieu veut vous donner. Des bénédictions. Mais il faut que vous ayez l'humilité de dire, Seigneur, donne-moi cette muraille que je la franchisse. Nous avons à accepter de payer le prix de la vie communautaire et nous l'avons accepté. On a accepté ça en 1977 avec mon épouse. Et puis tout de suite après est arrivée Isabelle Lemot. Et puis d'autres sont arrivés, ils sont toujours là. Et ça a été vraiment une muraille à franchir. C'était terrible. À l'époque, je faisais partie de certaines pastorales Et c'est là que j'ai pris mes premiers coups. On m'a jeté des pierres, hein. Mais vraiment, c'était horrible. Je me souviens même d'un pasteur dans la région de Pontoise qui m'avait écrit une lettre d'insulte sur du papier de toilette. C'est inouï que je me rappelle de tout ça. Et ça m'intimidait, mais quand même, après, je me ressaisissais. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et puis ensuite, c'était les journalistes. Et puis après, ça a été le Parlement en 1996. C'était difficile, mais nous avons tenu ferme sur le fondement de notre foi en Jésus-Christ, dans ce que Dieu nous disait là sur le moment et qui mettait en lumière des paroles qui avaient été oubliées par les chrétiens. On a tenu ferme et notre Seigneur nous a donné de comprendre d'autres choses. Il nous a ouvert les yeux sur l'ange de Laodicée. Il l'a identifié, nous savons qui c'est. Et ensuite, il nous a donné de comprendre l'histoire, les sept âges de l'Église, comment cela s'est mis en place. Et ensuite, la révélation des sept sceaux d'Apocalypse. Vous trouvez tout ça dans mes prédications précédentes, là, dans Révélation Bible. Il y a presque, je crois, 800 prédications. Cherchez, vous allez trouver les sept âges de l'Église, les sept sceaux et tout ça. Et puis, on a compris, Dieu nous a révélé le baptême à la place des morts, et puis Dieu nous a révélé la prêtrise, il a rétabli cela, nous faisons comprendre ce que c'est. Quand je pense, je me souviens, Raphaël, l'homme qui m'a emmené à Dieu, un jour je discutais avec lui, et il me sort le truc, il me dit, mais Michel, on ne peut pas imposer les mains si on n'a pas notre carte de pasteur. Je lui dis, mais où est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Alors lui, évidemment, c'était un illettré. Moi, j'ai montré, j'ai fait comprendre, et j'ai fait lire même par quelqu'un d'autre, afin qu'il puisse être certain que dans Marc 16, c'est écrit « Tous ceux qui croient peuvent imposer les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison des malades. » Il était tout étonné, il a dit « Alors c'est faux ce que j'ai écrit. » Je dis « Oui, c'est faux. Dieu est en train de rétablir la vérité. » Et c'était pas seulement lui qui le croyait, c'était toute sa dénomination, toute sa mission qui croit des choses comme ça. Et Dieu est en train de rétablir des choses nouvelles. Enfin, elles sont même pas nouvelles, elles sont anciennes, mais il les rétablit maintenant, alors ça nous paraît nouveau. Ça fait des bouleversements dans l'Église. Alors, la prêtrise, ce pouvoir d'agir en son nom, allez écouter les prédications que j'ai données sur ce sujet. Ce sont des choses que Dieu rétablit dans son Église. Et puis ensuite, le scellement des familles pour l'éternité, les mariages éternels. Moi, je ne crois pas que Dieu nous unit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tout cela, c'est des choses que j'enseigne, que Dieu est en train de rétablir, mais toutes ces choses-là sont fermes dans mon cœur. Fermes. Mais il est bon que j'en parle encore parce que ces choses sont fragiles encore dans certains. On me dirait, c'est vrai, j'ai le temps, j'étudie, et puis vous avez votre travail toute la journée, vous avez quelques instants dans votre journée pour pouvoir méditer cela, et vous prenez ça comme un coup, c'est un choc. Mais vous devez écouter la parole de l'Éternel. Hier, mes frères et sœurs, le 15 mai 2014, nous avons scellé notre premier mariage éternel selon Matthieu 16, 19, ici au sanctuaire. Nous avons scellé ce mariage à l'endroit même où nous allons construire le temple. En fait, on pourrait dire qu'on l'a scellé dans un tabernacle. Nous avions une très jolie tente, très belle, et c'est là que nous avons scellé ce mariage. Souvenez-vous que avant le temple à Jérusalem, il y avait une tente qui était appelée le tabernacle. Alors nous attendrons maintenant d'avoir l'autre temple pour sceller d'autres mariages. La question est pourquoi un temple ? Pourquoi un temple ? Alors, est-ce que Dieu n'aime pas les temples ? On pourrait penser, puisque jusqu'à maintenant, le temple de Jérusalem ont été détruits. Ils ont été détruits à cause de la désobéissance. Vous savez, déjà dans l'ancienne alliance, Dieu voulait que les choses soient très très claires. Et il dit qu'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Le ciel et son trône, et puis voilà, la terre et son marchepied. Il est très clair à ce sujet. On peut pas Dieu peut pas habiter dans un endroit comme ça, tout petit, même comme le temple de Jérusalem qui était grand, c'est pas possible. Alors, Dieu n'a pas changé. Mais cependant, il voulait quand même un lieu de rencontre. Alors, le tabernacle. Tabernacle ou tente du témoignage. On va venir là-dessus. Dans Exode 25:8, c'est dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu habite-t-il pleinement dans le tabernacle? Non. Puisque les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Alors, qu'était ce tabernacle? C'était la tente du témoignage, elle s'appelait la tente du témoignage, la tente du témoignage que Dieu était avec eux et non pas contre eux. Parce que Dieu est toujours avec, il est toujours là, mais il est avec nous ou contre nous. Et la tente du témoignage, c'était le témoignage, le tabernacle, c'était le témoignage que Dieu était avec eux. Dans le tabernacle, il y avait un endroit devant le voile qui s'appelait la tente d'assignation. On trouve ça dans Exode 27-21. Vous savez, j'ai eu l'occasion de visiter un tabernacle en Israël avec mon frère et ma sœur Alaman et mon épouse. Et il y avait là des juifs chrétiens qui avaient monté ce tabernacle en plein désert, exactement dans les mesures qui sont indiquées dans la Bible. Et là, mes enfants, c'est tout petit. C'est tout petit. C'était tout petit. Eh bien là, devant le voile, il y avait un endroit, n'est-ce pas, qui s'appelait la tente d'assignation. Alors en français courant, tente d'assignation, ça pourrait s'appeler la tente de citation à comparaître. Vous voyez, une petite question juridique là-dessous, citation à comparaître. Alors les prêtres allaient là pour rencontrer Dieu, enfin vous lirez dans Exode 27-21 ce qu'ils allaient faire là dans la tente d'assignation et tout. Toutes les grandes choses spirituelles se faisaient à partir du tabernacle, dans le tabernacle. Mais vous allez me dire, mais maintenant on est dans la nouvelle alliance, pourquoi un temple? Ben, rien n'a changé, rien n'a changé, mes frères et sœurs. Dieu n'habite toujours pas dans les temples faits de main d'homme. Il habite en nous. Nous sommes ses temples, hein, de Corinthiens 6:16. Et puis d'ailleurs, Paul dit que c'est ensemble que nous formons son temple. Éphésiens 2, 19 à 22. Vous lirez ça. Et Dieu est partout. Dieu est partout. Les cieux ne peuvent pas le contenir. Mais il est quand même plus particulièrement là quand nous sommes réunis et d'accord. Matthieu 28, 20. On ne peut pas dire le contraire. C'est Jésus qui le dit. Mais il veut des temples. Pourquoi il veut un temple? En fait, son église est son temple. Là où nous sommes, c'est son temple. Alors réfléchissons. Nous sommes son église locale, rétablie ici, telle qu'elle était au début, c'est-à-dire une communauté de vie. Et dans le psaume 133, c'est dit ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là, un endroit. Nous avons un espace dans lequel nous vivons. Nous appelons cet espace le sanctuary. C'est composé de plusieurs bâtiments avec un parc magnifique et nous l'appelons le sanctuary. C'est le sanctuaire. Et dans le sanctuary, il y a divers endroits. Et à chaque endroit, sa spécialité. On ne mange pas au WC. Je dis ça pour que vous vous en souveniez. On ne mange pas au WC. On a consacré un endroit pour manger ensemble selon Actes 2, 46. On a consacré un endroit où nous mangeons. Les premiers disciples à Jérusalem, eh bien, ils mangeaient dans les maisons, puis alors après, ils se réunissaient au temple. Alors, Actes 2, 46, qu'est-ce qu'ils allaient faire au temple? Ben, tout ce qui se fait au temple, c'est-à-dire, ils écoutaient la prédication, ils écoutaient les enseignements, ils priaient, ils louaient Dieu, et toutes ces choses-là. Et nous, au sanctuaire, ils faisaient leurs ordonnances. Et nous, au sanctuaire, nous avons nos autels de prière. Et puis, nous avons notre réunion de prière hebdomadaire au grand salon. Et puis, il y a des endroits où on dort. Ce sont des endroits privés. N'importe qui n'entre pas dans votre chambre à coucher, n'est-ce pas, les frères et sœurs? Nous avons un parc où les jeunes peuvent jouer. Et puis, il y a un endroit qui est consacré à la cuisine. Et puis nous avons un endroit consacré aux alliances typiquement évangéliques, comme nous faisons là tout ce qui se fait dans les églises, c'est-à-dire écouter la prédication, les enseignements, baptiser les gens, de prendre la Sainte Cène, et puis il ne nous viendrait pas à l'idée de faire des choses profanes dans notre chapelle. Hein, on ne va pas faire la fête du Nouvel An dans notre chapelle. Il y a plus de place que dans notre salon. Ben non, on ne le fait pas. Parce qu'on a l'idée au sujet de... Voilà, c'est un endroit qui est consacré pour ça. Comme la même chose, on ne mange pas au WC. Il y a des endroits qui sont consacrés pour certaines choses et des endroits qui sont consacrés pour d'autres choses. Eh bien, désormais, nous aurons un autre lieu pour accomplir nos ordonnances sacrées, un temple. Nous y prêcherons? Non, justement pas. Nous n'y prêcherons pas. Ça se fait dans la chapelle. Nous n'y baptiserons pas les nouveaux convertis. Nous n'y donnerons pas la Sainte Cène, parce que ça, c'est ce qui se fait dans la chapelle, comme c'est ce qui se fait dans toutes les églises, dans toutes les chapelles. Nous y ferons ce que Dieu nous a donné à nous, afin qu'elle soit rétablie sur terre. Nous y ferons les choses que Dieu nous a données à nous, pour qu'elle soit rétablie. Nous y scellerons des mariages éternels, nous y scellerons des familles, nous y ferons les baptêmes à la place des morts, enfin tout ce que Dieu nous a confié à nous, pour que ces choses soient rétablies. Et Dieu nous confiera, sans doute, beaucoup d'autres choses si nous sommes fidèles à ce qu'il nous a déjà donné. Mes frères et sœurs, nous sommes le petit troupeau qui cherche à rester fidèle. Alors vous savez, quand le temple de Jérusalem a été profané, c'était fini. C'était fini. Et nous ici, nous ne voulons pas que ce que Dieu nous a confié soit exposé à la critique, au jugement et aux moqueries des gens qui ne se sont pas consacrés. Parce que nous ne voulons pas qu'un jugement tombe sur eux. Ils ne sont pas à même de comprendre, donc voilà, on est prudent. La Bible dit « Soyez prudents comme des serpents ». Simple, c'est certes, oui, comme des colombes, mais prudents comme des serpents aussi. C'est pourquoi seuls les membres du sanctuaire auront accès à l'intérieur du temple. Alors, pour ce qui concerne les chrétiens sérieux qui nous connaissent, ils pourront y entrer pour sceller leur mariage, pour l'éternité, après avoir eu un entretien avec les responsables de la communauté, les responsables spirituels. Pourquoi nous ne laissons pas entrer les gens dans le temple? Parce que nous y faisons des choses sacrées. Et Jésus veut pas qu'on jette les choses sacrées à la vue de tout le monde. On a vu combien de personnes tellement gentilles avec nous, tellement sympathiques, n'est-ce pas formidable, à peine franchi le portail, l'horreur, les critiques, les moqueries et tout. Il y a une chose que les gens devront respecter, sont nos croyances. Nous ne pratiquons rien de secret dans notre temple, nous y pratiquons des choses sacrées, et il faudra qu'ils respectent cela. Pas secret, mais sacré. Ce temple sera ce qu'il était au départ avec Moïse, ce sera en quelque sorte la tente du témoignage. Par ce temple, nous rendrons témoignage de notre foi, sans toutefois laisser les gens toucher à ces choses que nous considérons comme sacrées. Ce temple sera aussi un lieu de rencontre avec Dieu. Les disciples, Luc 14, 33, pourront aller y prier. Mes frères et sœurs, nous sommes les bras ouverts, nous ne sommes pas fermés aux gens de l'extérieur. Nous ne rejetons personne, les bras ouverts, accueillant ceux qui croient. D'où la forme d'ailleurs symbolique du temple qui est, comme vous verrez les photos quand ça sera construit, comme des bras qui sont étendus vers, accueillants. Comme toujours, nous serons accueillants, ouverts, respectant la croyance des autres, mais en étant ferme sur ce que Dieu nous a donné. Nous savons ce que Dieu nous a dit. Mais ça nous vaudra certainement des critiques, d'être comme ça, ferme. Ça nous a toujours valu des critiques. Dernièrement, là, quelqu'un m'écrivait en me disant « Je sais ce que vous pensez être la crème des crèmes et tout. » Nous savons ce que nous avons reçu de Dieu et nous le respectons infiniment. Si quelqu'un ne respecte pas ce que nous avons reçu, il est libre. Nous respectons tout le monde. Mais nous ne pouvons pas adopter toutes les formes de croyances. Je respecte infiniment les catholiques, je ne vais pas aller profaner leur lieu et casser leur statut, mais je ne suis pas d'accord avec leur idolâtrie. Mais je peux quand même les respecter, les regarder dans les yeux et parler avec eux. J'estime que c'est la moindre des choses que les gens fassent avec nous. Alors, on accepte ce défi de savoir que cela va certainement nous causer des problèmes, et puis avec certains esprits contraires, mais on accepte le défi pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans une époque qui n'est pas différente des autres. Dieu aime tous les gens d'aujourd'hui et il leur parle comme à ceux d'autrefois. Autrefois, il y avait ceux qui croyaient et puis il y avait ceux qui ne croyaient pas. Hein? Je vais dire la chose un petit peu autrement. Autrefois, il y avait ceux qui croyaient que c'était Dieu qui parlait et il y avait ceux qui ne croyaient pas que c'était Dieu qui parlait. Ah! Vous comprenez mes frères et sœurs? Eh bien, ce sera la même chose. Quand je vous parlais du mot que j'ai reçu cette semaine encore, dans ce fameux mail, il y a eu une insulte de la part d'un chrétien qui me dit que notre doctrine communautaire est fausse, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire au sujet de ce que Dieu est en train de continuer à rétablir avec nous, si déjà ça, ils ne peuvent pas l'avaler? Donc, nous devons être prudents. Allez-vous monter avec moi sur cette muraille? Est-ce que vous allez franchir cette muraille? Sans Dieu, nous ne pourrons pas, parce que ça va nous occasionner des difficultés. Mais avec son aide, nous y arriverons, et il bénira nos efforts. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour mes frères et sœurs ici au sanctuaire, mais je te remercie aussi pour tous ceux qui ont un code pour pouvoir venir écouter les prédications du vendredi. Et je les remets entre tes mains, sachant, Seigneur Jésus, que tu leur donneras l'éclaircissement sur toutes ces choses et qu'ils pourront les comprendre et qu'ils pourront les aimer et qu'ils pourront s'engager avec toi plus loin avec les choses que tu es en train de rétablir. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, mon Dieu. Amen. Amen.